La radiodiffusion française vous invite à écouter
le témoin de ce vendredi, Alfred Wahl, l'historien balle au pied.
J'ai commencé par voir des petites choses en Alsace. Je suis allé consulter les archives de la Ligue d'Alsace pour voir ce qu'il y avait. Puis de proche en proche, je suis allé à la Fédération française de football et je me suis aperçu qu'il y avait moyen de faire une véritable histoire sociale, politique, économique qui se tournerait autour du football.
Archives 1989, c'est à cette date que notre invité publie ses archives du foot, livre pionnier. En la matière, les sociologues et les anthropologues avaient deux matchs d'avance et les historiens britanniques, au moins un. L'histoire à la française a beau dire qu'elle se nourrit de tout, celle du foot n'était pas conviée à la table et à l'université, elle est longtemps restée à l'office. Pour s'introduire dans la pièce principale, elle a dû dire que le foot était un sujet politique, sociologique, géopolitique d'importance. Et un sujet médiatique. C'est par ce biais que s'est accélérée la légitimation. La messe est dite dès lors que Françoise Giroud présente Platini comme un objet d'art et que Marguerite Duras le consacre comme un artiste au long d'un entretien fleuve dans Libération. Pendant le Mondial de 1998, le foot apparaît comme le sujet appelé à occuper durablement la place numéro un dans les médias. Les intellectuels, bons clients de la télé, n'entendant pas perdre leur ticket d'entrée sur les plateaux, ils viennent maintenant disserter de leur passion pour les stades qu'ils taisaient jusque-là. Si Finkielkraut et Cohn-Bendit parlent du ballon rond, les historiens du foot ont droit de citer, non. Et le sujet finit par se tailler une place dans les manuels aux grandes dames de quelques enseignants puristes. Jean-Luc Mélenchon lui-même est prêt à aller loin. Depuis qu'il est candidat aux législatives sur le Vieux-Port, il en vient à dire qu'aimant tout de Marseille, il aime aussi l'OM. Quant à Emmanuel Macron, il est évidemment invité, selon une coutume établie dès 1927, à la finale de la Coupe de France ce samedi. Les hommes politiques aiment à parler dans le foot du style des équipes. Encore un peu de temps et vous verrez les historiens sortir des analyses politiques, économiques, sociales du sport et s'intéresser de plus en plus près, eux aussi, du jeu.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Alfred Wahl, déjà nommé, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
C'est vrai que pionnier, vous avez fini par assister à la légitimation de l'histoire du foot depuis les années 1990.
Oui, c'est un peu ce qui se dit. C'est-à-dire que c'est vrai que j'étais peut-être le premier à l'université à faire travailler les étudiants qui étaient demandeurs. Venant de milieux sociaux plus modestes que dans les années 50, ils avaient envie de travailler sur des choses qui leur paraissaient importantes et qu'ils connaissaient.
On vous a entendu souvent à la marge de l'histoire parler de l'Alsace et de l'Allemagne. Il a fallu quand même que vous prouviez votre compétence dans ce domaine avant que vous ne vous hasardiez sur les terrains en tant qu'historien. D'ailleurs, l'histoire du football en Alsace, parce qu'on nous dit toujours le football est venu par les Anglais, mais est-ce que en Alsace, à l'époque où l'Alsace était allemande et où s'implante le football, il n'y a pas une histoire un peu particulière ?
Bon, il y a les deux voies en général, et ça vaut pour tout le monde. Le football est venu directement d'Angleterre, par exemple au FC Mulhouse, qui était la grande équipe alsacienne de cette époque. Le FC Mulhouse a été fondé tout simplement par des étudiants venus de Manchester pour apprendre la technique de l'impression à Mulhouse. Puisque Manchester, c'était la même industrie. Et on disait très longtemps que, parmi les historiens de l'économie, que Mulhouse, c'était le Manchester alsacien. D'où le FC Mulhouse est la première équipe qui a été fondée en Alsace.
Et à Strasbourg ?
La première équipe de Strasbourg a été fondée par un Allemand, mais un Allemand qui a fait son apprentissage. Il était élève en Suisse, à Montreux. Son père était banquier à Berlin. Et alors, en quittant ce collège de Suisse, où il avait appris à jouer au foot, il a gagné les villes du Rhin. Il a été à Strasbourg, à Karlsruhe, Francfort, ensuite à Bayern Munich. Et il a partout, il a initié les gamins à jouer au foot.
Les gamins des lycées.
Ça, il ne faut pas oublier de le dire, que le football, au début, c'est une activité physique de l'élite. C'était des enfants de grands bourgeois, d'avocats, Henseman était le fils d'un grand banquier.
Alors vous êtes né en 38, vous arrivez sur les stades à quelle époque ?
Pour jouer, c'était dès qu'on savait marcher.
Ah bon ?
Et on allait en bicyclette voir les matchs du SR Colmar.
Oui, mais attendez, votre petite ville, à peine une ville, 2000 habitants, et encore en comptant large, elle était capable de concurrencer le club de Colmar ?
Le club de Colmar avait connu une déchéance totale une fois que le professionnalisme a été arrêté. Le professionnalisme était aux mains d'un personnage emblématique qui s'appelait Joseph Lehmann, qui était en même temps adjoint au maire de la ville, qui était un grand industriel, dont le fils est devenu d'ailleurs un grand musicologue et mélomane à la radio française.
J'aime bien quand vous dites la radio française.
Oui, mais c'était Claude Lehmann, il s'appelait.
Bien sûr.
Il était connu dans France Musique. Et donc, ce club a connu une déchéance, et finalement, il se retrouvait au même niveau que nous, la petite commune de banlieue, et on était dans l'élite alsacienne.
Il est temps qu'on dise le nom de cette commune. Figurez-vous que Nathan Gallo, qui a préparé cette émission, a déniché cette archive concernant Sundhofen.
Sundhofen repart, appuyé par le public. Ouais, 53e minute. Sundhofen encore à l'attaque.
Une église, une école, la caserne des sapeurs-pompiers, la mairie bien sûr, et le stade.
Qui craint le plan des chalots, c'est peut-être vous, c'est pas nous, voyez comment tient le coup, la 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 la.
Non, j'ai pas peur, on est super content. On est super content. Peur, à son temps, vous savez, on n'a jamais peur. Mais les joueurs, je crois, ils seront bien motivés pour ce match.
Le stade peut contenir des milliers de personnes. Tous ne verront peut-être pas, mais tous pourront vivre avec enthousiasme le match.
Foot 3, Alsace soir. Sundhofen a un stade qui peut contenir des milliers de personnes, sauf que tout le monde ne voit peut-être pas très bien.
Lors de mon temps, il n'y avait vraiment rien, il n'y avait pas de tribune, il y avait juste un cordage autour du stade. Et pourtant, quand on a joué une fois, on a eu 1500 spectateurs, c'était presque un record d'Alsace. C'était exceptionnel parce qu'il y avait toutes les communes des environs.
La mairie s'intéressait au club ?
Alors, de mon temps, le maire n'était pas du tout foot. Bon. Par contre, le suivant était un amateur du football et qui est devenu d'ailleurs, entre autres, il est devenu secrétaire général de la Ligue d'Alsace de football. Et après lui, c'est de nouveau quelqu'un qui ne s'intéressait pas au foot. Mais en fait, les vrais animateurs du football, c'était un grand transporteur et un grand entrepreneur de construction. Et le transporteur, c'est mon meilleur ami dans la commune. Il est encore là, il a 90 ans, et il va encore au stade. Il s'appelle Henri Lang. C'est un personnage emblématique, et c'est lui qui a en fait lancé toute l'affaire en 1950, à partir de rien.
Je voulais qu'on évoque le rôle des industriels locaux. Il y a très peu de films en France sur le football, curieusement. Et ce sont des films pas très favorables, Jean-Pierre Mocky, ou bien le film de Jean-Jacques Annaud, qui se passe dans un club d'une petite ville, plus grande que Sundhofen, disons 8000 habitants, quelque chose comme Guingamp. Le film se passe d'ailleurs à Trinquant, et de même qu'en avant de Guingamp avait eu comme protecteur pendant longtemps un industriel de machines agricoles. Ici, c'est un patron qui règne sur son petit club.
Alors, nous, c'est qu'à Trinquant, tout est lié. Le club de foot, c'est le club du président Civardière, et l'usine, c'est l'usine du président Civardière.
Très souvent, dans une usine, on va donner un boulot fictif à un joueur, tout simplement parce qu'il va marquer des buts dans les petites rencontres. Et il est très incompétent à ce qu'il fait, et du coup les autres ouvriers le détestent parce qu'il bosse mal. Sauf que quand il marque des buts, là il redevient une vedette, mais pour 15 jours seulement. Et ça intéresse les patrons du club, parce que ça maintient le mec sous pression.
On m'a donc aussi viré de l'usine.
Monsieur, c'est à quel sujet?
Monsieur le Président, j'aimerais vous dire deux mots.
Qu'est-ce que ça veut dire, Lambert?
Je ne sais pas, Monsieur le Président, il est rentré sans...
On a viré du foot il y a 3 semaines.
Bon, écoutez, je ne suis pas au courant de tout ceci. Mettez-vous en rapport avec l'entraîneur.
Aujourd'hui, on me vire de l'usine. Je suppose que vous allez me reprendre mon logement.
Qu'est-ce que vous faites, là?
Mais je vous dois tout, Monsieur le Président. Alors, je vous rends tout. Je vous renverrai mon slip par la poste. Et mes chaussettes.
Et voilà, et Perrin de se déshabiller entièrement, parce que vous avez connu des joueurs comme ça qui étaient pieds et poings liés entre les mains du chef d'entreprise, dirigeant de club.
Oui, ça existait déjà de mon temps, il y en avait 2 ou 3 clubs en Alsace comme ça, mais vous savez, ils faisaient venir ces joueurs, ils les achetaient pour ainsi dire, ils les employaient dans leur usine. Bon, c'est un peu caricatural, sans doute, parce que c'est un film, mais il y a du vrai là-dedans.
Et puis si on veut chercher du vrai sur l'histoire d'En avant de Guingamp, il y a un très bon livre de Jean-Michel Le Boulanger sur ce sujet. Si je parle de Guingamp, c'est que à une époque postérieure, celle de Monsieur Legrette, qui dominait quand même la vie économique de Guingamp, en même temps qu'il a été un moment maire socialiste de Guingamp. En avant de Guingamp a pris son envol, à tel point qu'on l'a vu en ce millénaire 2 fois en finale dans les derbies bretons de la Coupe de France, parce qu'on va en venir à la veille de la finale de la Coupe de France de cette année, à l'histoire de cette noble institution.
Et la voici, cette 97e Coupe de France que vont se disputer l'En avant de Guingamp et le Stade Rennais. Voilà Nolwenn Leroy pour l'hymne de Bretagne.
Ni braises à galon, car on pont guivo, brudet eo pont ar vordre ar betro dro, dis pont kreiz ar brezel, on ta Eviti o quat O breis Ma bro Me gar Ma bro Tam a Vo mo Ve mur Nez ro A vez o
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le bro gros Mazadou, je sais, Alfred Val, vous êtes notre témoin aujourd'hui, que vous n'appréciez que modérément les différents régionalismes de France, mais enfin, je tenais à vous faire entendre cet hymne, terre des bardes et des saints, nos ancêtres ont versé leur sang pour toi. Mais revenons à notre Coupe de France.
Allez, de retour au Stade de France, avant de se replonger dans cette finale de la Coupe de France, on va faire, mon cher Manu, un petit peu d'histoire. Vous le savez, nous commémorons cette année le centenaire du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et ce que vous savez peut-être moins, c'est que la Coupe de France, l'histoire de cette Coupe de France est intimement liée à cet événement tragique. Le reportage d'Arnaud Matteoli et d'Abdel Zouyesh.
XIV-XVIII et son héritage, inattendu. Sur le front de la Grande Guerre, le ballon rond connaît sa première démocratisation. Des poilus venus de tous les territoires de France découvrent le football.
Le football et le sport ont été un moyen pour nos grands-pères de rester quelque part humains. Pour eux, le sport a été un moyen de préserver leur âme.
Hors de la zone de front, naissance d'une compétition légendaire. En l'honneur de Charles Simon, simple soldat du 28e régiment tué le 15 juin 1915, la première Coupe de France portera son nom. FC Lyon, Olympique de Pantin, 5 mai 1918, devant 2000 personnes à Paris. Défaite 3-0 des Lyonnais et un absent, Carlos Muti. La raison, Carlos Mouti, engagé volontaire avec la Légion étrangère, est mort pour la défense de la France, 10 jours avant cette première finale historique. Cette Coupe de France, symbole d'ouverture, rassemble autour d'un ballon rond tous les footballeurs de France, comme en 14-18.
C'est une chose qu'il ne faut pas oublier, ça me semble important, et tous ces joueurs qui vont soulever la Coupe, quelque part, ils communient avec les poilus.
Quand même, on pourrait s'arrêter au langage de ce reportage qui a été commandé par la très officielle mission du centenaire. Il y a, comment dire, une euphémisation. On dit tomber pour la défense de la France, pas au champ d'honneur. Hein. Et puis, il paraît que les poilus trouvaient de la douceur, pratiquement, et sauvaient leur âme en jouant au football, que donc la Coupe Charles Simon, c'est un symbole d'ouverture et qu'on joue en communion avec les poilus aujourd'hui. Ce langage un peu étrange.
J'aurais deux remarques là à propos de Charles Simon. Il mérite une petite mention. C'était le président du football des patronages. Ce personnage est tout à fait emblématique et tout à fait fondamental dans la formation du football français, parce que c'est lui qui a entamé le processus de la fusion des différentes fédérations. Donc ceci dit, il a eu son nom, Coupe Charles Simon, parce que Delaunay, qui l'a organisé la Coupe, était aussi quelqu'un du patronage. Ensuite, il a fondé la fédération. Ensuite, cette Coupe de France, en moment de la fondation de la Fédération française de football en 1919, elle a pris le nom de Coupe de France, mais c'est toujours gravé sur la Coupe, c'est marqué Coupe Charles Simon.
Donc, ça, c'est la première remarque. Et la deuxième que vous vouliez faire,
la deuxième
Alfred
remarque,
Val.
Oui, c'est sur la pratique du football sur le front. Il y avait quand même des périodes de repos. Et les soldats étaient renvoyés à l'arrière pour des périodes de repos, compte tenu du caractère absolument horrible que tout le monde connaît, de la guerre des tranchées. Et à l'arrière, il fallait qu'ils s'occupent. Et ils ont joué au foot, c'est-à-dire ceux qui savaient ont initié les paysans des différentes communes de France, qui ne savaient pas, qui n'avaient jamais été touchés par le football. C'est pour ça qu'on dit, et il y a beaucoup de travaux là-dessus, on dit que le football s'est généralisé à partir de la guerre de 14, sans compter que les Anglais, dans la jonction des fronts avec les Anglais, il y avait des matchs entre l'armée anglaise et l'armée française.
À l'occasion de cette première Coupe de France, les clubs, ils sont 48 des 4 fédérations existantes qui vont se réunir peu ou prou, ils jouent ensemble, mais qu'est-ce qu'il advient, par exemple, des clubs du Nord, Nord occupé, et puis des clubs d'Alsace, qui n'est pas française à l'époque? Comment l'Alsace s'est-elle réintroduite?
L'Alsace a rentré dans la Fédération française de football en 1919. Et le président de la Fédération de la Ligue d'Alsace de football est devenu immédiatement un grand cadre de la Fédération nationale.
La Fédération nationale, la Fédération française de football, vous en connaissez les archives, vous avez été un des premiers à les pratiquer. Ça les intéresse, l'histoire ?
Je ne devrais pas dire du mal d'une maison à laquelle j'ai longtemps appartenu, aussi comme dirigeant. Mais franchement, par rapport au tennis ou au basket, l'aspect culturel du foot, les archives, c'est encore pas aujourd'hui leur gros problème. J'ai travaillé dans une bibliothèque de la Fédération française de football, d'une richesse fabuleuse, parce que le spécialiste de la communication avait été un historien et il a fait ce travail. Alors, la bibliothèque a disparu au profit d'une salle de sport pour le personnel.
Très bien, tout est dit. On insiste beaucoup, quand on fait l'histoire de la Coupe de France, sur l'instrument de cohésion nationale qu'elle constituerait. Il est vrai que dès 1927, le président de la République assiste à la Coupe. C'est Gastounet à l'époque.
Gaston Doumergue, oui. Bon, je voudrais dire quand même une chose là sur cette histoire de Coupe de France. C'était la compétition la plus spectaculaire, la plus médiatisée, pour la simple raison que ça concernait l'ensemble de la France, alors que les championnats étaient régionaux, donc d'un intérêt limité. Il n'y avait pas une audience nationale, ce qui fait que la Coupe de France était la première compétition. Et vous savez, je ne vais pas dire du mal de la Coupe de France, mais qu'aujourd'hui c'est secondaire, accessoire par rapport au championnat.
La continuité historique de la Coupe de France est telle qu'elle n'a pas été interrompue pendant l'occupation. Bon, le régime de Vichy luttait contre la professionnalisation qui avait commencé dans les années 30, et puis le championnat de France était handicapé par la ligne de démarcation. Il éclatait en au moins deux entités. Qu'est-ce qui s'est passé pour la Coupe de France pendant l'occupation ?
La Coupe de France a continué, mais il y a eu une compétition nord, une compétition sud. Et il faut quand même ajouter une chose, c'est que les cadres dirigeants de Vichy étaient un peu des cadres qui avaient une mentalité du début du XXe siècle. C'est-à-dire que le football, ils ne l'aimaient pas. C'est parce que c'était le sport professionnel. Il y avait la guerre contre le professionnalisme. Alors ils voulaient réintroduire l'amateurisme. Ils ont supprimé le professionnalisme. Le football en a pâti. Mais bon,
la Coupe de France moins, parce que dans la Coupe de France, il y a du hasard, de l'imprévisibilité, et on nous dit toujours, c'est encore un lieu commun des journalistes, que les petits poussets peuvent faire face aux grands clubs.
Alors là, il y avait une réalité qui n'est plus valable. Je me rappelle qu'une équipe d'Algérie ou Quevilly avait battu le Grand Stade de Reims, mais c'était une exception durant toute la Coupe de France. Alors qu'aujourd'hui, puisque les niveaux ont complètement évolué et il y a un rétrécissement complet, un rapprochement, si vous voulez, entre les différentes divisions, différents niveaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'une équipe de national ou de CFA bat une équipe professionnelle, ça se reproduit à des dizaines de fois. On ne s'étonne plus parce que ces équipes-là, de niveau inférieur, dispose aujourd'hui des mêmes moyens, des mêmes capacités techniques.
Oui, mais enfin,
donc
quand
ce
même,
n'est plus une exception.
Depuis le 22 mai jusqu'au 15 juin, sur les grilles de l'Hôtel de Ville de Paris, une exposition de photos avec Polka Magazine qui est uniquement centrée sur les exploits des petits poussets. Istres, Bergerac, Fréjus, le Poiré sur Vie, 8000 habitants en Vendée. Oui. La légende continue.
Oui, mais Poiré-sur-Vie, à un moment donné, on jouait en national. Hein. Alors, la différence entre le national et la Ligue 2 n'est pas si énorme que ça. Guingamp, vous dites, ça a 8000 habitants, je crois. Il y a 13000 spectateurs et 8000 habitants. C'est plus tellement une exception.
Très bien, Alfred Vall. Alors, puisque vous démolissez notre légendaire, reste à faire surgir le spectre du général en 1967. Il répugnait un peu à venir aux Coupes de France. Il avait fallu qu'on lui explique que c'était important, non ?
Le général de Gaulle, il avait été informé qu'il fallait aller à la Coupe de finale de la Coupe de France parce que les présidents de la République y allaient habituellement. Le résultat, c'est qu'il a dit « Ah, 3e République, 4e République, c'est régime, on nie ». Alors, son conseiller, je ne sais qui, lui a dit, mais monsieur le président ou mon général, en Angleterre, le roi d'Angleterre et maintenant la reine d'Angleterre, ils assistent infailliblement tous les ans à la finale de la Coupe de France. Alors, je vais y aller.
Donc, en 1967.
Maison envoie la balle dans les tribunes. Et c'est le général de Gaulle qui a reçu le ballon sur les genoux. Voici le général qui lui-même remet la balle en jeu. Épisode tout à fait inattendu de cette finale. Il est vrai que les hommes politiques ont pris l'habitude maintenant de faire des comparaisons avec le sport. Je crois que M. Pompidou, au cours de la campagne électorale, a parlé de matchs de rugby. Eh bien, aujourd'hui, le football a pris sa revanche grâce à cette passe très involontaire de Maison au général de Gaulle qui a remis la balle en jeu. Vous n'ignorez pas que le général de Gaulle a pratiqué le football dans son adolescence. On n'a pas manqué de le rappeler dans la presse avec des photos de l'époque.
Le général de Gaulle a pratiqué le football dans son adolescence, disent les journalistes, peut-être un peu serviteurs de l'État, de l'ORTF de 1967. La culture footballistique des présidents, au mieux, et tardivement, c'est une culture de fan. Il n'y a pas de président qui ait beaucoup pratiqué le football comme vous,
jeunesse,
Alfred Vall.
Si. Dans leur jeunesse, si.
Si.
Giscard d'Estaing s'est même fait filmer dans...
Oui, dans un match à Chamalières entre les employés municipaux et les commerçants de la ville.
Oui, mais il avait apparemment joué, sinon...
Oui, mais il n'avait pas de style.
On n'est pas obligé d'être un champion, mais apparemment, il a dans sa jeunesse joué comme il a joué de l'accordéon aussi.
Et dans le monde politique moderne, maintenant, la place du football est beaucoup plus importante.
C'est parce que le sport est devenu tellement populaire, tellement pratiqué, tellement dans les médias que les politiques s'en emparent. D'ailleurs, le langage politique, je n'ai pas d'exemple tout de suite là sous la main, mais le langage politique, il utilise constamment des métaphores sportives.
Et lié au style, au jeu. Alors, qu'est-ce que disent, Alfred Wahl, maintenant, les historiens du football, du jeu? Est-ce qu'ils s'intéressent enfin au jeu?
Je pense que vous avez lu quelque chose que j'ai écrit là-dessus, parce que c'est vrai que...
Vous avez écrit tellement de textes sur le football.
Non, mais au bout de 10 ans, je me suis dit, bon, on a assez dit maintenant que c'est un phénomène social, économique, politique. À partir du moment où le football est devenu légitime, c'est devenu très légitime à l'université maintenant, j'ai proposé dans un article ou dans un texte que je ne sais plus où, qu'il fallait maintenant s'intéresser aussi à l'histoire du jeu lui-même. Alors, j'ai proposé donc qu'on s'intéresse aussi à la technique, à la tactique, au placement sur le terrain, enfin tout.
Vous pouvez prendre un exemple?
Parce qu'on peut en assez, déjà l'évolution du placement des joueurs sur le terrain.
C'est-à-dire?
Par exemple, en 1900, il y avait 10 attaquants et un gardien de but. Tout le monde se précipitait devant, de façon sans réflexion, sans organisation. Et au fur et à mesure, il y a une organisation. C'est comme ça que les défenseurs ont été retirés de l'attaque pour défendre. Et ensuite, il y a eu des joueurs entre deux qui sont devenus les demi, qu'on les appelait à l'époque, les relayeurs. Et donc, il y a une évolution constante. Et les grandes évolutions du football, c'est la sagesse, la science du nouvel type de classe de placement sur le terrain. Alors, il y a eu le 4-2-4, il y a eu le 4-3-1, etc. On en parle tout le temps à la télévision, on dit, voilà, telle équipe joue tel jeu. Donc ça, c'est absolument fondamental. Quand les Hongrois ont battu les Anglais 7-1 et 6-3, successivement, l'espace de 15 jours, alors que les Anglais étaient la meilleure équipe, c'est parce que les Hongrois avaient trouvé un nouveau système de jeu, en avançant replié et les deux inter-avancés, ce qui fait que la défense anglaise était complètement perdue parce qu'il y avait deux avant-centres. Donc c'est essentiel hein, dans l'histoire du football.
Et allez, une ultime question et qui provient de ce que vous disiez de votre jeu personnel. Sur le jeu de tête, le jeu de tête a-t-il évolué?
Le jeu de tête a évolué dans la mesure où de plus en plus de joueurs se spécialisent. C'est-à-dire que ils viennent de n'importe quelle place du terrain. À de mon temps, il y avait des attaquants qui étaient, au moment du corner, qui étaient devant. Mais maintenant, quand il y a un corner, déjà en 98, Blanc, qui était défenseur central, à chaque corner, il montait parce qu'il était grand et était spécialisé des jeux de tête. La technique, elle a évolué de façon absolument extraordinaire. L'équipe de France qui jouait dans les années 50, si vous regardez un film, vous voyez la lenteur du jeu. Il y avait quelques techniciens comme Raymond Coppa hein, et d'autres, mais le jeu était d'une lenteur extraordinaire. Physiquement, ils n'étaient pas du tout à la hauteur par rapport à aujourd'hui. Donc l'histoire du jeu mérite d'être envisagée, c'est clair.
Quant au jeu des poilus, je rappelle pour mémoire que c'est il y a 100 ans qu'a été organisée la première Coupe de France. Il paraîtrait peut-être courageux aujourd'hui, mais tellement différent de celui que nous pratiquons.
Belle journée, n'est-ce pas? Chez nous, une journée comme celle-ci serait le jour idéal pour une finale de coupe. Une finale de coupe. C'est ce qui vous manque vraiment ici, n'est-ce pas? Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas levé le matin en pensant « Ce soir, on ramène la coupe à la maison. » Quand y avez-vous pensé? La dernière fois. Il y a plus d'un an, je pense. Le dernier grand match, quand était-ce? Quelqu'un se souvient? Et quelqu'un se souvient du score?
Oui, mon capitaine. 9-0 pour nous.
Exact. 9-0. Quel match. Nous avons beaucoup joué contre les Allemands, mais ils ne nous ont jamais battus. Que diriez-vous de jouer un match ici? Et maintenant, now, tout le monde ici pour un grand et bon match.
Dans les tranchées, mon capitaine.
Cette émission avec Alfred Wahl, dont bon nombre de publications sur le football sont rappelées sur notre site, a été préparée par Nathan Gallo, réalisé par Lise Combe avec à la technique Pauline Laverdure.
À suivre, Mathieu Vidard, le club de la tête au carré. Vous écoutez France Inter, il est 14h.